Soft Power, Frédéric Martel. This is why I'm hot.
This is why I'm hot. France Culture, bienvenue dans Soft Power, le magazine des industries culturelles et du numérique, désormais tous les dimanches de 18h10 à 19h30 en direct. Ce soir, je reçois Jean-Jacques Ayagon, ancien ministre de la Culture, pour une émission qui était prévue depuis d'ailleurs plusieurs semaines, mais qui naturellement prend un tour singulier avec la disparition du président de la République Jacques Chirac, dont vous avez été, Jean-Jacques Ayagon, le conseiller, le directeur pour le directeur des affaires culturelles à la ville de Paris et le ministre de la Culture. Bonsoir.
Bonsoir.
Bienvenue dans Soft Power. Avec vous, nous reviendrons en début d'émission sur Jacques Chirac, homme de culture, mais également plus longuement ensuite sur la politique culturelle aujourd'hui, celle d'Emmanuel Macron et de Franck Riester, dont vous ferez peut-être un premier bilan. Passe culture, loi audiovisuelle, évolution des règles sur le mécénat ou encore régulation des GAFA, Google, Apple, Facebook et autres, Amazon. Dans l'actualité de la semaine, nous parlerons également de la fin d'un psychodrame au journal Le Monde autour d'un droit d'agrément en cas d'entrée au capital d'un nouvel actionnaire, ce que Mathieu Pigas, l'un des propriétaires du journal Le Monde, résume ce matin dans le JDD. Ce droit d'agrément, c'est du vide. J'ai fait du jutsu, c'est l'art du vide. Ambiance. On en parle avec vous, Emmanuel Paquette, ainsi que de Google et les droits voisins. Bonsoir Emmanuel.
Et bonsoir Frédéric. Bah oui, Google, l'Europe a essayé de faire payer Google sur les articles de presse qui pouvaient être affichés dans le moteur de recherche et dans Google Actualité. Et Google, cette semaine, a dit qu'il refusait de payer.
Ah, Franck Riester n'est pas content, on en parlera également. Pauline Barraud de Lagerie est également notre invitée ce soir pour décrire l'état du marché de l'emploi des travailleurs numériques, les travailleurs, comment dire, Zoé Sfès, du clic, des apps et du cloud.
Bah, précisément de micro-travail, puisque Pauline Barraud de Lagerie co-signe avec Luc Sigalo Santos un article dans cet ouvrage que nous vous recommandons, Les nouveaux travailleurs des applis, dirigé par Dominique Leda et Sarah Abdelnour. Mais elle a travaillé précisément sur ce qu'on appelle le micro-travail et donc le crowd surfing, qu'elle essaye de comparer, qu'elle essaye d'envisager à l'aune de ce qu'on appelait les tâcherons au 19e siècle.
Voilà, on peut dire des clics et des claques. Si on ajoute Tina Turner à Broadway, voilà pour le sommaire de ce magazine Soft Power ce dimanche. L'émission est réalisée ce soir par Véronique Villa avec en régie Inès de Bruyne. Cette émission a été préparée par Nathan Marcel Millet avec pour les réseaux sociaux Abdelila Laloui. Car vous pouvez suivre cette émission sur Twitter, mot-clé Soft Power, sur notre playlist Soft Power de Spotify ainsi que sur Instagram, sur Facebook, LinkedIn et bien sûr en podcast chaque semaine en vous abonnant gratuitement au podcast sur le site de France Culture sur iTunes ou sur l'application podcast de votre smartphone. Soft Power jusqu'à 19h30 sur France Culture en direct. L'actualité de la semaine, bien sûr, c'est la disparition de Jacques Chirac. L'hommage national a même déjà débuté. Grand rassemblement populaire ce dimanche aux Invalides, non loin d'ailleurs de la maison de la radio ici à Paris. Et demain, journée de deuil national avec la cérémonie officielle et les honneurs militaires le matin aux Invalides en présence d'Emmanuel Macron et de dizaines de chefs ou anciens chefs d'État et de gouvernement, suivi par un office à l'église Saint-Sulpice. Et entre-temps, le parcours du cortège funéraire encadré par des dizaines de gardes républicains. La République qui sait justement rendre hommage en grande pompe à ses meilleurs enfants, c'est Daniel Barenboim lui-même qui jouera au piano l'un des impromptus de Schubert, l'opus 142 numéro 2 que nous écoutons. En ce qui nous concerne ce soir, nous allons nous interroger essentiellement sur l'homme de culture, Jean-Jacques, avec vous, Jean-Jacques Ayagon, l'homme de culture Jacques Chirac. Mais un mot d'abord sur peut-être l'ampleur de cet hommage national, l'unanimité, le consensus, qui évidemment masque un peu la part d'ombre, les dates plus sombres qui existent inévitablement, les échecs aussi de l'ancien chef de l'État.
Oui, en effet, on a l'impression que l'intensité et la densité de cette émotion... réconcilie Jacques Chirac avec la totalité des Français, quelle qu'ait pu être à certains moments leurs oppositions ou à sa personne ou à sa politique. Il faut dire que Chirac a occupé la, la scène politique française pendant très très longtemps. Songez que les accords de Grenelle, 1968...
Oui, il vient avec un revolver dans la poche, dit-on.
Il est déjà là, c'est lui qui négocie avec la CGT.
Dans la salle des accords de Grenelle.
2007, il est toujours... Il est
de la rue de Grenelle, au ministère du Travail.
Ouais. Au ministère du Travail, il est toujours là et il n'a jamais quitté l'horizon qui était sous les yeux des Français, l'horizon politique et l'horizon tout court. Donc une longévité politique tout à fait exceptionnelle et dans des fonctions extrêmement diverses. Cet homme aura été ministre, aura été député de la Corrèze, conseiller général de la Corrèze, président du conseil général de la Corrèze,
maire de Paris,
et à ce titre, président du conseil général de Paris et de la Seine, puisqu'à Paris, la ville et le département sont confondus, ministre, premier ministre, président de la République, il aura tout fait. Et il aura connu également, il aura été ou l'allié ou l'adversaire de toutes les personnalités les plus éminentes qui ont joué un rôle important dans notre pays. Il aura connu le général de Gaulle, il aura connu Valéry Giscard d'Estaing.
Affronter François Mitterrand, en débat.
Affronter François Mitterrand, puis avant de lui succéder. On sait la difficulté de sa relation avec Nicolas Sarkozy. François Hollande, pour qui il a plus ou moins appelé à voter, qui était corrézien, en tout cas élu corrézien comme lui. Donc on voit bien que c'est un homme qu'on rencontre dans tous les recoins.
Mais ça veut dire aussi, selon cette formule latine célèbre, des mortuis nihil nisi bonum, des morts on ne peut dire que du bien. Ça veut dire qu'après le temps des hommages, peut-être le temps des historiens viendra ?
Inévitablement et heureusement. Je crois qu'après, en effet, cette émotion viendra le temps de l'histoire, de l'analyse, qui s'amorce d'ailleurs déjà dans certains journaux, mais ce bilan de Jacques Chirac, comme tout bilan d'ailleurs, a des points saillants, des points forts, des points éblouissants parfois, et puis parfois, en effet, des éléments de bilan moins satisfaisants. Mais c'est le propre de tout homme politique que de contribuer à l'histoire de notre pays de façon mélangée.
En matière culturelle, puisque c'est ce qui va nous occuper ce soir, les points saillants, vous les définiriez, vous les énuméreriez
comment... Le premier point que j'évoquerai, c'est tout d'abord qu'on s'est mis à constater que Jacques Chirac était cultivé. Il avait lui-même tenté pendant longtemps d'accréditer l'idée qu'il était cuistre, qu'il ne s'intéressait qu'à la musique militaire et au roman policier. C'est un grand genre littéraire, d'ailleurs, le roman policier, il faut pas le maîtriser. Et puis au fil des décennies, on s'est rendu compte que Chirac avait une véritable culture, mais une culture singulière. Une culture qui s'était portée sur des choses qui, d'habitude, n'intéressent pas systématiquement les hommes politiques. La poésie, ce qu'il tenait sans doute de Georges Pompidou. La paléontologie qui le passionnait, d'où ses entretiens fréquents avec le professeur Coppens. Les civilisations de l'Asie, dont il avait fini par devenir un connaisseur extrêmement, extrêmement avisé, extrêmement affirmé. Et, de façon plus générale, toutes les civilisations éloigné de la nôtre. C'est ce qui m'a attaché à lui d'ailleurs, c'est la constatation que finalement il avait su dépasser le confort de notre précaré culturel et s'intéresser à d'autres choses que celles qui nous intéressent dans notre civilisation depuis longtemps. Il avait regardé vers les autres horizons et ensuite il en a fait d'ailleurs l'un des leviers de ses politiques culturelles.
Alors mercredi va paraître chez Fayard un ouvrage, ici c'est Chirac, un ouvrage inédit d'entretien avec Jacques Chirac, signé de l'homme avec lequel il avait rédigé les deux tomes de ses mémoires, Jean-Luc Barré. Et ce coup-ci ce sont des sortes de mémoires d'outre-tombe, bourrées de révélations comme celle-ci. Chirac revient sur son amour légendaire pour les films de western et de manière surprenante déclare qu'on a toujours pensé qu'il aimait les westerns parce qu'il était du côté des cowboys. Et Chirac de révéler « J'ai toujours été du côté des Indiens ». Une formule qui éclaire peut-être, Jean-Jacques Ayégon, sa conception de la culture du monde, le musée des arts premiers par la suite et une forme de passion pour la diversité, sinon peut-être même une forme aussi d'anti-américanisme.
Oui, je crois que c'est la clé principale de la compréhension de la personnalité culturelle de Jacques Chirac.
Aimer les Indiens.
Voilà. Aimer les Indiens, aimer les autres. Je l'ai entendu un jour, je dînais, j'étais ministre, il m'invite à dîner à l'Élysée avec le président Fox, le président du Mexique, et je l'entends faire une sortie très très violente sur la colonisation des Amériques par les Européens, sur le rôle néfaste de Christophe Colomb qu'il considérait quasiment comme un criminel de guerre, déplorant l'anéantissement des civilisations antérieures à la découverte, accablant les Européens d'avoir introduit leur religion, leurs idées, leurs maladies sur ce continent, et prenant le parti, en effet, des Indiens, contre les Espagnols et de façon générale, d'ailleurs tous les Européens, puisque les Espagnols n'ont pas été seuls à coloniser les Amériques et le reste du monde. Quand il s'est agi de célébrer le 5e centenaire de la découverte de l'Amérique, il a pris une décision qui, dans un premier temps, m'a surpris. Il m'avait fait venir dans son bureau pour m'en parler. Décision de programmer au Petit Palais une exposition sur les Taïnos Arawak. Il me dit à ce moment-là, vous savez tout naturellement de l'admirable civilisation des Taïnos Arawak. Je lui réponds, bien sûr monsieur le maire, j'en connaissais extrêmement peu, je me suis ensuite renseigné naturellement et c'est de cette façon que nous avons monté avec Jacques Kerschach une exposition qui réellement a fait date et au cours de laquelle il s'est d'ailleurs lui-même livré à plusieurs reprises à des présentations de l'exposition à la presse, déployant toute l'étendue de sa connaissance du sujet. S'il a créé, parmi les institutions qu'il a créées, le musée du Quai Branly, le département des arts de l'islam au Louvre,
le pavillon des sessions
avant le musée du Quai Branly, avec donc
le département des arts d'Afrique, d'Asie, d'Océanie, oui.
Qu'on a appelé à un moment les arts premiers, au même titre que les chefs-d'œuvre de la peinture italienne du XVIe siècle ou ceux de l'art grec du Ve siècle avant notre ère, c'est qu'il avait une conception extrêmement riche de l'histoire de l'humanité. Il estimait que toutes les civilisations, tous les êtres humains, tous les peuples avaient contribué à cette grande aventure de la civilisation au même titre et de façon également digne. Il était en quelque sorte un fils d'André Malraux également. Vous savez, dans le dictionnaire, dans le musée imaginaire d'André Malraux, Malraux convoque des chefs-d'œuvre de toutes les civilisations, de toutes les cultures. Il les met toutes sur le même plan et il les invite à se parler, à dialoguer. D'où la grande idée de Chirac, l'idée du dialogue des cultures, fondée sur l'affirmation de la nécessité de la diversité des cultures. Conviction qu'il animait tellement, tellement fortement qu'il a été l'un des chefs d'État à porter au sein de l'UNESCO l'idée qu'il fallait élaborer une convention sur la diversité culturelle, convention qui a été, dont l'examen a commencé en 2003 et qui a été définitivement approuvé par l'UNESCO en 2005.
Si on regarde à la fois Ville de Paris et aussi Président de la République, donc Élysée, il y a tout un tas de musées. Alors on peut penser au musée de Lens, le musée d'Abu Dhabi qui sera organisé par votre successeur Renaud Donnedieu de Vabre, mais c'est Chirac qui est président. Le musée Guimet, la maison de la poésie, la maison de la photographie, la vidéothèque de Paris devenue forum des images. Tout ça montre une préoccupation dans différentes directions et il y a une philosophie derrière tout ça, une pensée. Chirac de la culture ?
Oui, je crois qu'il y avait une pensée de la culture. Il pensait que la culture avait besoin de lieux pour se fabriquer, pour se diffuser également, pour se partager. Je crois qu'il pensait, il croyait très très fortement à la nécessité des institutions culturelles. Et
c'est pas un libéral. Il y a un rôle de l'État, il y a un rôle de la ville.
Il n'était pas libéral. Vous savez, l'un de ses grands projets culturels, ça a été d'installer plus dignement les archives nationales qui périclitaient dans leurs diverses installations. Il prend la décision, il confie à deux femmes remarquables, à Georgette Elger et à Annette Wiewórka, le soin d'un rapport sur la situation des archives nationales dans notre pays. Elle lui rend ce rapport. Ce rapport décrit une situation totalement dégradée et il prend la décision de créer dans le nord de Paris, à Pierrefitte, un nouveau site totalement performant, adapté au travail des historiens, afin que les archives nationales soient enfin dignes de leur mission. Donc il croyait beaucoup à cette nécessité pour l'État d'assumer ces institutions et parfois d'en créer de nouvelles, de façon à accroître sa capacité à mettre en œuvre une politique culturelle. Et à cela s'ajoutait qu'il croyait également très très fortement que dans ces institutions, il fallait nommer des gens aussi compétents que possible et même très compétents. Il a toujours fait confiance aux responsables des établissements culturels. À la ville de Paris, songez que nous avions à un moment, nous n'avions que des gens qui ensuite ont eu des destins professionnels extraordinaires. Véronique Hella était à la Vidéothèque de Paris, elle est aujourd'hui présidente d'Arte. Stéphane Lissner était au Châtelet où il avait succédé à Jean-Albert Cartier, il est à l'Opéra de Paris maintenant. Jean-Luc Monterosso a été l'instrument de sa politique en faveur de la photographie. Gérard Violette qui a accompli un travail formidable pour la diffusion de la danse contemporaine dans notre pays, à Paris et dans notre pays, était au Théâtre de la Ville. C'est à un poète, à Pierre-Emmanuel, qu'il a confié la conception et ensuite la réalisation d'une maison de la poésie. Donc il croyait beaucoup, il croyait aux hommes de façon générique, hein, les hommes avec un grand H, donc aux femmes et aux hommes capables de porter des projets. Il savait également qu'il n'appartenait pas à un responsable culturel de mettre en, d'avoir des idées en matière de politique artistique. Il savait distinguer entre une politique culturelle, qui est une politique d'orientation des choses, et une politique artistique ensuite, qui consiste à donner du contenu à l'action des établissements ou des institutions.
Justement, comment est-ce que vous comprenez cet intérêt non affiché pour la culture? C'est vrai qu'il y a eu des grandes figures, notamment comme François Mitterrand et Georges Pompidou, qui l'affichaient clairement. Et c'est presque, effectivement, quand on est sorti de l'ère Chirac, qu'on s'est rendu compte qu'il avait effectivement repris à son compte aussi une grande partie des choses mises en place sous François Mitterrand, et les avait gardées. Est-ce que c'est le dernier grand président d'une politique culturelle orientée pour vous?
Alors, tout d'abord, il était extrêmement pudique, donc il n'aimait absolument pas parler de ses sentiments, de ses goûts, de ses pensées. Ce n'est que très progressivement qu'il s'est révélé. D'autre part, un président aussi essentiel pour l'histoire culturelle de notre pays comme François Mitterrand, il a pris soin, grâce au génie également de son ministre de la Culture, de Jack Lang, en même temps qu'il mettait en œuvre une politique culturelle, de la dire, quasiment de l'écrire. Et donc, les choses, les idées, les faits ont très rapidement été gravés, comme gravés dans le marbre. Bon, d'abord, Chirac n'a pas eu un ministre de la Culture, il aura eu 5 ministres de la Culture, dont 2 ministres de cohabitation, Catherine Trottmann et Catherine Tasca, ont été ministres de Jacques Chirac. Et je tiens d'ailleurs à vous dire que la cohabitation culturelle a été tout particulièrement sereine et respectueuse réciproquement, mais il aura eu Philippe d'Oust-Blazy, les 2 ministres que j'ai cités, moi-même, Renaud Donnedieu de Vabre. Donc peut-être que cette succession, c'est, vous le savez, aujourd'hui l'une des faiblesses du ministère de la Culture, oui, que cette instabilité effroyable qui frappe les détenteurs de la fonction. Là, toute politique a besoin un peu de temps pour se mettre en œuvre. Donc Jacques Chirac a donné une impulsion formidable aux choses, il a fait de grandes choses, mais ces choses restent encore à écrire. J'ai commencé à les écrire en présentant il y a quelques années une exposition au musée du Quai Branly, exposition que j'avais intitulée « Jacques Chirac ou le dialogue des cultures », mais j'espère que demain, des historiens, des observateurs continueront d'écrire cette histoire parce que son bilan culturel est solide et même très convaincant.
Signalons que le musée du Quai Branly Jacques Chirac, le musée des arts premiers, restera ouvert gratuitement à tous jusqu'au vendredi 11 octobre, a annoncé le ministre de la Culture. Jean-Jacques Ayagon, on vous retrouve. Allez-y, pardon.
Non, je voulais simplement ajouter une chose, ce que je trouve également très intéressant dans le comportement culturel, dans l'engagement culturel de Jacques Chirac, c'est qu'il a eu l'intelligence, notamment dans les périodes de cohabitation et lorsqu'il était maire de Paris, de ne pas s'opposer au grand projet culturel de François Mitterrand. Si le Grand Louvre et la pyramide ont pu se faire, c'est parce que Chirac a soutenu ces projets. Les colonnes Buren sont toujours en place, alors qu'une bonne partie de la droite aboyait contre ces projets. Hein, il a su résister à la démagogie qui aurait consisté à dire on arrête le Grand Louvre, comme Édouard Balladur le souhaitait, on arrête la Grande Bibliothèque, on démonte les colonnes de Buren. Il avait compris que ce qu'avait fait Mitterrand, ça appartenait désormais à la France entière et qu'il en était un tout petit peu comptable et même beaucoup comptable. Donc ces projets, il les a assumés.
Toujours dans l'actualité ce soir, 2 rapides points avec vous, Emmanuel Paquette. On va parler dans un instant de la bataille sur les droits voisins avec Google, mais juste avant du journal Le Monde, où cette semaine une sorte de psychodrame, je reprends les mots de Mathieu Pigas dans le JDD ce matin, une sorte de psychodrame s'est terminé autour d'une négociation qui portait sur un droit d'agrément réclamé par les rédactions du Monde.
Oui, alors il faut faire, pour comprendre ce qui se passe et ce psychodrame, il faut faire un petit retour en arrière. Grosso modo, il y a un an, un nouvel actionnaire s'est invité au capital du Monde, donc Daniel Kretensky. Donc c'est un milliardaire tchèque qui a fait fortune dans l'énergie et dans la distribution, la grande distribution notamment en Allemagne avec Metro, et qui aujourd'hui s'intéresse particulièrement à la France et entre dans l'univers des médias en France. Et donc, ce Daniel Kretensky a pris 49% du capital de la société détenue par Mathieu Pigasse, donc le banquier de Lazare, qui lui-même est actionnaire du Monde, à côté de Xavier Niel, donc le cofondateur de Free, et du groupe Prisa, le groupe espagnol Prisa, qui aujourd'hui édite El País.
Ainsi que l'héritier de Pierre Berger.
Voilà, exactement, de Madison Cox. Donc l'actionnariat était stable jusqu'à l'arrivée, effectivement, de ce nouvel actionnaire. Et les journalistes ont découvert que non seulement il rentrait à hauteur de 49%, mais il avait une option pour monter à 51%, donc prendre la totalité des parts de 26% du capital du Monde. Et c'est là-dessus que les journalistes, le pôle d'indépendance s'est constitué pour dire, eh ben nous, on veut, nous journalistes, on veut savoir déjà quand ces 51% peuvent changer de main et si on peut s'y opposer et dans quel cadre. Et donc pendant un an, les journalistes ont tenté de faire signer différents documents aux actionnaires sans réussite, jusqu'à les avoir mis au pied du mur à la rentrée, en ce mois de septembre, en leur donnant plusieurs semaines pour trouver un nouvel accord, un contrat, qui finalement s'est signé...
Droit d'agrément. Justement.
Exactement. Alors le droit d'agrément...
C'est une sorte de veto en fonction des actionnaires qui seraient proposés, c'est ça ?
C'est ça, c'est exactement ça. C'est-à-dire si un actionnaire de contrôle vient à rentrer au capital du Monde, le pôle d'indépendance peut y opposer son refus, et du coup s'ouvre une période de 6 mois pendant laquelle le pôle d'indépendance peut aller chercher un nouvel actionnaire pour remplacer celui dont ils ne veulent pas. Si à la fin de la période de ces 6 mois, il n'arrive à trouver personne, à ce moment-là, le précédent actionnaire revient dans la boucle et peut rentrer au capital.
Alors, sur le plan économique, ça a un sens, un tel agrément ?
Alors, selon Mathieu Pigasse, pas du tout, parce que la question, c'est aussi la question de la valorisation de ces parts qui seront cédées. On ne connaît pas aujourd'hui la valorisation du groupe Le Monde, puisque c'est un groupe qui n'est pas coté. Et on sait simplement qu'aujourd'hui, Mathieu Pigasse a réussi à obtenir que, quoi qu'il arrive, la cession de ses parts ne seront pas à une valeur inférieure à 57 millions d'euros, quand lui-même les valorise plutôt à 110 millions d'euros. Donc on voit qu'il y a un gros écart. Donc en cas de changement d'actionnaire, un expert serait nommé pour estimer la valeur du Monde et des parts qui seraient cédées. Et donc c'est là, effectivement, où tout se jouera.
Alors là, ce matin, justement, dans le JDD, dans une chronique de Anna Cabana, comment dire, un Mathieu Pigasse détendu et un peu sioux dans cet entretien portrait dit tout ça à propos de ce droit d'agrément et ce psychodrame de cette semaine. Tout ça, c'est une comédie avec des gens médiocres dans une époque médiocre. Je suis joueur, je pense que la vie est absurde. Je fais du jutsu, donc
concrètement,
voilà, c'est l'art du vide, c'est créer du vide pour retourner la force de l'adversaire contre lui-même.
Oui, effectivement, parce que je pense que Mathieu Pigasse a été extrêmement exposé, son image extrêmement écornée, et surtout, parce que c'est quand même le banquier de Lazare, donc c'est quelqu'un qui vit à côté de fusion-acquisition ou qui négocie le rééchelonnement de dettes de grands pays.
Sans droit d'agrément, souvent.
Exactement, donc cette image-là, elle est importante, et qu'elle soit écornée comme ça au niveau français, ça peut lui nuire dans ses affaires. Il y a déjà des rumeurs qui courent sur l'avenir de Mathieu Pigasse au sein de la banque Lazare, qui est une grande banque d'affaires, de fusion-acquisition notamment. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, Mathieu Pigasse a tout intérêt à calmer le jeu, mais pour combien de temps ?
Alors ça a été aussi un peu, tout ça a été un peu excité par, vous l'avez dit, Daniel Kretinsky, mais aussi qui paye sa collaboration avec Denis Oliven, bête noire des journalistes du Monde depuis sa tentative de rachat du journal Le Monde contre BNP, un Berger. Daniel Pigasse, c'était en 2010. Et puis de l'autre côté, négociation menée par Emmanuel Hogue, ancien PDG de l'AFP, qui a pris la direction des actifs médias et rock'n'roll de Mathieu Pigasse. Donc on voit, c'est aussi des batailles de Denis Oliven, Emmanuel Hogue, Mathieu Pigasse versus la direction du Monde.
Oui, c'est pour ça d'ailleurs de le voir dire dans cette chronique avec Anna Cabana qu'il est hors système.
C'est et qu'il est punk.
Mais au-delà de ça, c'est vrai que c'est très... Ce qui est compliqué pour Mathieu Pigasse aussi, c'est que Mathieu Pigasse, qui a mis énormément d'argent dans les médias, y compris dans Nova, est en train, peu à peu, parce qu'il se rend compte qu'on n'en gagne pas beaucoup d'argent quand on investit dans les médias.
Avec Radio Nova et Rock en Seine.
Et voilà, que tout ça, qui est Rock en Seine, qui réussit à perdre de l'argent, ce qui est quand même assez, assez fort, mine de rien, il va avoir tendance, cet homme, à retirer les billes qu'il a mis dans les médias. Et évidemment qu'avec un accord d'agrément, c'est beaucoup plus difficile de vendre. C'est évidemment tout le problème, c'est quel est l'intérêt pour quelqu'un aujourd'hui d'investir à perdre dans des médias qu'il ne peut pas contrôler. On est au-delà de ça, sur une question autour de laquelle on tourne, avec évidemment toujours les mêmes questions depuis plusieurs années en France.
Jean-Jacques Ayego, une réaction peut-être?
Écoutez, votre observation était extrêmement intéressante. Je me suis souvent demandé pourquoi des hommes riches et faisant des affaires s'intéressaient aux médias, puisque ça ne rapporte pas grand-chose et qu'on n'est même pas garanti que ce média ou que ces médias diront du bien de vous. Donc, vous voyez, on risque de perdre son
Vous Italie. Aviez pas envie de racheter Radio Nova
non,
vous-même
Non, mais
les
cela, dit,
et
cela dit, quand même, on est confronté à une terrible contradiction, c'est que les journaux d'une part, sont des productions culturelles pour lesquelles on doit souhaiter l'indépendance des rédactions. C'est ce qui fait la qualité de la presse, c'est ce qui fait sa crédibilité. En même temps, un journal ou un groupe, c'est également une affaire qui a besoin d'argent pour investir et qui donc doit se tourner vers des gens qui sont susceptibles d'y investir et éventuellement espérer d'avoir quelque influence dans les affaires. Donc cette contradiction, elle est terrible.
Et la génération des Pierre Berger, qui ont fait partie de ces quelques personnes qui ont, disons, mis pour la beauté du geste de l'argent dans des groupes qui perdaient de l'argent. La même chose chez la famille qui détient le Nouvel Obs, et j'ai oublié son nom, qui depuis a changé un peu de stratégie depuis la mort du patriarche. Voilà, ces figures-là, on les a plus aujourd'hui en France, et on n'a pas une économie des médias qui permette aujourd'hui d'éviter cette espèce de hiatus.
Mais Jean-Jacques Ayagon, la contradiction, elle est permanente dans la vie.
Mais je crois à la nécessité des contradictions au sein du peuple. Vous voilà, savez, donc finalement, c'est un vrai maoïste, moi.
Justement, vous n'avez pas posé la question à votre employeur, Monsieur Pinault, parce que lui-même détient le point.
Donc il vous auriez pu poids, poser la question. Mais de façon extrêmement paisible. C'est-à-dire qu'il s'est fixé...
Emmanuel Paquette Sioux qui est rentré.
il s'est fixé quelques règles du jeu. Donc il n'intervient pas dans la conception éditoriale du journal. Il lui arrive naturellement d'en discuter avec le directeur de la publication. Et d'autre part, ayant des affaires par ailleurs, des affaires qui sont...
Et même un hôtel particulier.
Et donc
rue de Tournon.
Il est naturellement attentif à ce que le journal ne perde pas trop d'argent, mais il sait également que ce n'est pas à travers la presse qu'on en gagne beaucoup.
Puisqu'on parle de François Pinault, un mot sur le président de la République, Jacques Chirac, vivait dans l'hôtel particulier de François Pinault, 4 rue de Tournon, dans le 6e, comme tout le monde le rappelle. Ça vous paraît normal?
Oui, c'est un acte d'amitié. Jacques Chirac était très lié à François. Jacques Chirac était très lié à François Pinault et François Pinault à Jacques Chirac. François Pinault constatant que son ami qui habitait, vous le savez, sur le quai Malaquais,
dans un appartement des Hariris, dont il ne pouvait plus monter à cause de.
Il est en chaise roulante. Fauteuil roulant. Donc l'ascenseur, voilà. L'ascenseur ne recevait pas cette chaise roulante, donc il lui a proposé un appartement de plein pied dans un immeuble qui lui appartient, rue de Tournon. Et puis cet appartement avait un petit jardin, ce qui permettait à la famille de Jacques Chirac de lui faire prendre l'air de temps à autre. Mais c'est un acte d'amitié dont François Pinault n'attendait rien en retour.
De toute façon, il avait été président de la République il y a longtemps. Il n'y avait plus de projet à venir. Emmanuel Paquette, dernier sujet d'actualité ce soir. Bataille un peu technique sur les droits voisins entre Google et Ristérix, comme on l'appelle, c'est-à-dire le ministre de la Culture, Franck Riester.
Oui, parce qu'en fait, tout part d'une directive européenne qui a été votée il y a quelques mois de cela et qui aujourd'hui est transposée dans différents pays, dont la France. Et cette directive des droits voisins doit permettre une rémunération pour les éditeurs de presse qui permettent à Google de référencer les liens et les photos, ce qu'on appelle des snippets. Donc c'est des formes contractées, des premières lignes d'un article de presse avec une photo. Et jusqu'à maintenant, Google le proposait sur Google, le moteur de recherche, et sur Google Actualité, donc la verticale destinée à l'information gratuitement. Et l'idée, c'était de faire payer Google pour
rémunérer. Ces extraits, finalement.
Voilà, cette indexation de toute cette information. Là, Google a réagi, puisque normalement, l'application de cette loi devrait intervenir à la fin du mois d'octobre. Et Google a dit, nous, on ne payera pas. Donc, soit on retire complètement les articles, et à ce moment-là, il y aura une incidence sur votre trafic. Soit on garde vos articles, mais à ce moment-là, on signe un nouvel accord de gré à gré avec chaque éditeur, en stipulant bien qu'il n'y aura aucune rémunération pour la mise en avant de vos articles. Donc tout ça pour ça, on a envie de dire, ça a fait un peu pchit, comme dirait l'ancien président de la République. Et donc du coup, le ministre de la Culture, Franck Riester, est monté au créneau en disant que c'était inacceptable. Et il demande à Google de se mettre autour d'une table pour négocier à nouveau. Alors il faut savoir que Google a déjà utilisé à peu près les mêmes procédés en Espagne et en Allemagne. Et à chaque fois, les éditeurs ont perdu dans ce bras de fer. Parce que le rapport de force aujourd'hui, il n'est plus du tout entre les mains des éditeurs. Même pas au niveau des gouvernements, il est plutôt du côté de Google. Donc si Google ne veut pas céder... Et bien en fait, Google ne cédera pas.
Bien, comme ça les choses sont claires. À suivre, Pauline Barreau de Lagerie qui décrit dans un livre coécrit avec Dominique Méda les nouveaux travailleurs du web. Et juste après, on retrouve Jean-Jacques Ayagon, ancien ministre de la Culture. Ce coup-ci, nous parlerons d'Emmanuel Macron, de sa politique culturelle et de Franck Riester. Mais juste avant, et pour clore cette séquence d'actualité de la semaine, un mot sur les liens à la fois artistiques et très rentables entre Broadway et l'industrie de la musique. Ces dernières années, le théâtre de texte qu'on appelle le straight theater aux États-Unis a connu de grandes difficultés à Broadway, c'est-à-dire dans les théâtres qui ont plus de 500 places. De moins en moins de pièces sont montées dans ces théâtres commerciaux de New York et elles sont renvoyées le plus souvent dans le off-Broadway, c'est-à-dire des théâtres qui ont entre 499 et 100 places, et surtout dans le off-Broadway, les théâtres avec moins de 100 places. Alors plutôt que du théâtre de texte, et ce n'est pas nouveau, on programme donc davantage des musicals, hein, les comédies musicales, souvent produites pour durer sur de longues années, ultra commerciales, ou Disney-ifiées, telles Le Roi Lion ou Mary Poppins. Ce qui est nouveau en revanche, ce sont les shows musicaux autour d'un grand nom de la musique, pop. Le West End à Londres fait cela depuis Mamma Mia, autour de la musique du groupe pop et un peu funky, hein, Emmanuel Paquette, ça vous rappelle des souvenirs à bas. Mais plus récemment, Bruce Springsteen a fait l'objet d'un Broadway show, Prince, ou encore Michael Jackson, dont l'arrivée sur Broadway est prévue pour 2020. En attendant, c'est Tina Turner qui devient le sujet d'une comédie musicale à New York à partir de la mi-octobre. La chanteuse de 79 ans qui vit désormais à Zurich et a pris la nationalité suisse coproduit le show qui a débuté à Londres. Alors comment expliquer une telle évolution? D'abord, et c'est évident, un musical à Broadway, c'est de la musique. Construire un show autour d'une star de la pop, c'est avoir dès le départ une partition originale et riche, indispensable pour une comédie précisément musicale. Ensuite, c'est faire de l'inconnu avec du connu. En prenant Michael Jackson ou Tina Turner, c'est s'assurer d'un public déjà séduit et qui peut prendre le risque d'aller voir un spectacle cher, très cher même, ce qui serait plus difficile à faire avec une production entièrement nouvelle. À l'origine, Broadway faisait de la création originale et Hollywood reprenait les succès pour en faire des films. Maintenant, c'est l'inverse. Broadway crée des shows à partir de films à succès comme Le Roi Lion ou de stars de l'industrie musicale adaptées à la scène comme Tina Turner. Alors ne soyons pas injustes, pour terminer, le show de Tina Turner qui arrive à Broadway mettra en scène une star qui fut longtemps pour les hommes un symbole de sex appeal et pour des millions de femmes un symbole des abus et des violences sur les femmes, un modèle de l'empowerment comme on dit, la possibilité pour les femmes de reprendre le pouvoir sur leur propre vie. Aussi un symbole de résilience, hein, ce vieil anglicisme très à la mode aujourd'hui. De sa retraite suisse où elle semble vivre le grand amour avec son mari Erwin Bach, un Allemand qui lui a donné un rein lorsqu'elle était en dialyse et au bord de la mort, Tina Turner suit la production de son spectacle qu'elle a tenu par fierté et force à coproduire.
You know, every now and then I think you might like to hear something from us. Nice and easy. But there's just one thing, you see. We never ever do nothing nice and easy. We always do it nice and rough. But we're gonna take the beginning of this song and do it easy. But then we're gonna do the finish rough. It's the way we do Proud Mary. Rolling, rolling, rolling on the river. Listen to the story now. Left a good job in the city, working for the man every night and day, and I never lost 1 minute of sleep, and I was worrying about the way the things might have been. Big wind.
Vous pouvez retrouver notre séquence actualité des industries culturelles et du numérique dans son podcast dédié sur le site de France Culture, page Soft Power.
France Culture, Soft Power, Frédéric Martel.
France Culture 18h44, Zoé Sfez.
Bonsoir Pauline Barraud de Lagerie.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous. Vous êtes ici parce que vous co-signez un article, les plateformes du micro-travail, le tâcheronat à l'ère numérique avec Luc Sigalo-Santos. Cet article, on le retrouve dans un petit ouvrage à la fois très court et extrêmement intéressant. Les nouveaux travailleurs des applis, c'est un, disons, un collectif de recherche qui est donc dirigé par Sarah Abdelnour et Dominique Méda, sociologue qui travaille sur la question du travail et aussi des égalités entre hommes et femmes, notamment Dominique Méda, depuis plusieurs années. Le projet, l'idée de cet ouvrage, je crois, c'est d'appréhender la manière dont la gig économie, ou ce que vous appelez, parce que vous le reprenez à des termes de chercheurs, le capitalisme de plateforme, déplace dans les frontières entre travail professionnel, travail loisir, travail gratuit. Voilà, l'analyse de ce capitalisme de plateforme qui a émergé ces dernières années divise, on le sait, dans la société civile, qui lui fait l'objet d'enthousiasme et de beaucoup de critiques, mais aussi au sein de la recherche. Donc vous êtes plusieurs chercheurs à avoir travaillé sur ces questions, chacun en essayant aussi d'utiliser comme référence des processus, d'analyser des processus à l'aune d'autres processus qui ont déjà existé dans l'histoire. Vous, vous signez cet article où vous vous intéressez à ce qu'on appelle le micro-travail ou le crowdsourcing. Est-ce que vous pourriez définir de quoi il s'agit ? C'est ce que Anthony Gazili, que nous avons reçu ici, appelle les travailleurs du clic.
Oui, tout à fait. Le micro-travail, c'est une activité qu'on trouve désormais en ligne avec des plateformes telles que Amazon Mechanical Turk, Figure Eight ou en France Full Factory.
Sur laquelle vous avez enquêté.
Exactement, Full Factory. Et cette activité consiste en fait, enfin, les plateformes récupèrent des projets d'entreprise, de traitement de données, des projets de traitement de données, et les divisent en micro-tâches qui sont distribuées à la foule des internautes. C'est pour ça qu'on appelle ça du crowdsourcing, la foule. Et ces micro-tâches donc sont confiées à des micro-travailleurs qui sont payés des micro-rémunérations dans ce système de nouvelles sous-traitances.
Alors c'est des rémunérations qui varient, on va le voir. Hein. Effectivement, le leader, celui qui a inventé ça, c'est Amazon. Amazon Mechanical Turk, reprenant l'image du Turc mécanique, ce fameux robot, finalement la première image de l'intelligence artificielle, bien avant l'heure, c'était au 18e siècle. Et aujourd'hui, ces travailleurs du clic, ils sont assez différemment répartis. Amazon est un énorme pourvoyeur de ce micro-travail, mais concrètement, est-ce que vous pouvez nous dire, par exemple, quelle est la promesse pour ces travailleurs ? L'idée, c'est un petit peu de rentabiliser vos temps morts. Et concrètement, c'est quoi ces tâches ?
Alors exactement, comme vous disiez, la question qu'on a dans ce collectif de chercheurs, c'est d'essayer de comprendre, de faire la part des choses entre le discours enchanté sur ce que va permettre la nouvelle économie, le numérique, etc., avec une libération des énergies, du travail collaboratif, etc., et puis la réalité du travail qui est souvent qualifiée de nouvelles formes d'exploitation, de cybertariat, etc. Et dans ce cadre-là, le micro-travail est très intéressant parce qu'il permet de voir comment de nouvelles tâches sont confiées à des travailleurs. Alors, les tâches, comme vous disiez, sont des petites tâches distribuées par des plateformes à des rémunérations très très faibles. Pour vous donner quelques exemples de ce que peuvent être les tâches qu'on trouve en ligne, identifier sur une photo s'il y a une tomate ou une pomme, ça va être payé 3 centimes pour une tâche estimé à 10 secondes. Transcrire un texte, on va estimer que ça prend une minute, sera payé 3 centimes d'euros. Et donc, on arrive avec des rémunérations qui sont souvent très, très basses.
Très basses, mais on vous le vend en fait comme finalement quelque chose de relativement peu qualifié, parce que finalement, à peu près n'importe qui peut le faire, et qui est un petit peu comme ça à la demande, ce serait une espèce de travail en plus, voire même une optimisation d'un jeu.
Tout à fait. Pardon, j'ai oublié de répondre au début de votre question. Effectivement, la promesse qui est faite, c'est celle de marchandiser le temps perdu. Donc l'idée, c'est, dans une journée, vous avez du temps mort, du temps perdu, vous attendez à l'arrêt de bus, vous êtes dans la salle d'attente du médecin, etc. Vous avez du temps perdu, eh bien, tant mieux, la nouvelle plateforme est là pour vous permettre d'optimiser, de marchandiser ce temps et du coup de gagner de l'argent dans tous ces temps qui étaient perdus auparavant. Et donc voilà, il y a une promesse qui est faite, c'est pour ça que le côté enchanté, il existe dans ce discours-là, et ce qu'on a essayé de voir, c'est si les pratiques étaient conformes à ce discours enchanté. Si effectivement, c'était la possibilité pour des individus de gagner des petites sommes dans des moments qui auraient été sinon perdus et voilà.
Alors c'est intéressant de dire que vous avez travaillé sur une start-up qui existe en France et qui aujourd'hui mobilise, on va dire, une dizaine de milliers de ces fameux travailleurs du clic, alors qu'on est sur des choses beaucoup plus élevées aux États-Unis en termes de sommes et en termes de nombre de personnes qui travaillent, aussi de public. Concrètement, qu'est-ce que ça donne? Vous avez l'air de dire qu'en réalité, ce travail-là, il est quand même très sous-payé et que il vous tombe pas du ciel. Il y a aussi tout un temps d'attente du moment où on vous donne la tâche. Concrètement, qu'est-ce que vous avez obtenu comme résultat?
Alors, ce qu'on a fait comme recherche avec mon collègue Lux Gallo Santos, c'est d'une part, on a interrogé un certain nombre de ces travailleurs, et puis on a administré un questionnaire. Donc, on a comme ça une série de données sur le profil de ces personnes et sur leurs pratiques. Ce qu'on constate, en fait, c'est qu'il y a, en gros, trois types d'usages de la plateforme. Il y a un premier usage qui est ce qu'on appelle la marchandisation, justement, du temps mort, l'usage interstitiel, qui est assez conforme à la promesse qui était faite. C'est des gens qui vont venir faire une petite tâche, repartir. C'est des gens, généralement, qui n'ont pas du tout besoin de ça pour vivre, des gens qui sont plutôt bien diplômés et qui, en fait, un jour, sont tombés sur la plateforme, ont trouvé ça amusant et, de temps en temps, ils font ça. Il y a un deuxième profil d'usagers qui sont des usagers qui planifient une heure ou deux heures en même temps qu'ils vont regarder la télévision ou avoir une soirée de libre pour faire une série de tâches et espérer y gagner un complément de revenu qui sera jamais très élevé mais qui voilà qu'ils estiment être nécessaire pour leur leur existence. Et il y a un troisième profil qui est un profil d'usagers intensifs qui alors, est largement minoritaire. Hein. On a moins de 5% des personnes qu'on a interrogées qui déclarent travailler plusieurs heures par jour. Mais c'est un profil qui est très intéressant parce qu'il est un peu inquiétant. Ce sont des gens qui passent des journées à attendre des tâches, car en France, il y a plutôt une pénurie de tâches sur ces plateformes-là. Donc, c'est des gens qui vont passer la journée à attendre des tâches, payer les sommes que je vous ai dit tout à l'heure, quelques centimes d'euros. Et donc, ils vont, à la fin du mois, toucher quelques dizaines d'euros au maximum pour un temps quasiment plein sur la plateforme. Donc ça, c'est généralement des profils de gens sans emploi, en difficulté, et donc c'est certainement le profil le plus inquiétant lié à ces plateformes-là.
Antonio Casilli, qui a travaillé aussi là-dessus, rappelait que, notamment sur Amazon Mechanical Turk, ces sommes qui nous paraissent dérisoires, en fait, elles sont très recherchées par exemple, des travailleurs très peu qualifiés qui sont en Inde, qui sont dans d'autres pays. Vous essayez de comprendre aussi, d'essayer d'envisager ce nouveau processus qui est très neuf, à l'aune de ce phénomène qui a été très important au 19e siècle, celui du tâcheron. Est-ce que vous pouvez nous rappeler quel était le rôle de cet intermédiaire du travail ouvrier qu'on a complètement oublié et qui a été tellement mal vécu qu'il a été interdit?
Tout à fait. Alors, le tâcheronat, qu'on appelait aussi marchandage, c'est une logique qui existait au 19e siècle, qui consistait pour le tâcheron à récupérer un projet, une tâche à faire, par exemple des vêtements pour les grands magasins naissants, et à le confier à des travailleurs à domicile, payés à la tâche. Et donc, cette figure du tâcheron, c'est vraiment la figure d'un intermédiaire qui voilà fait l'intermédiation entre des travailleurs à domicile très peu payés et puis des donneurs d'ordre.
Effectivement, contrairement à l'image qu'on pourrait en avoir où l'espèce de substrat qui reste dans le nom, c'est pas celui qui fait la tâche, c'est celui qui la répartit.
Voilà, alors les deux définitions peuvent exister, mais stricto sensu, c'est vrai que le tâcheron, c'est plutôt celui qui fait l'intermédiaire. Et on l'appelait également le sweater, c'est pour ça qu'on appelait ça le sweating system. C'est vraiment l'idée de celui qui gagne son argent sur la sueur des autres. Donc c'est celui qui extorque son gain sur le fait d'avoir fait suer les autres. C'est pour ça que c'est une figure qui a été très honnie au 19e siècle. Les réformateurs sociaux ont essayé de lutter contre ce système-là et qui a abouti finalement à son interdiction. Alors il y a eu plusieurs étapes, mais définitive début du 20e siècle, avec l'interdiction, la réglementation en fait du travail à domicile, son assimilation par la suite au travail salarié. Et voilà. Mais donc ce qui est assez incroyable avec les plateformes dont on parle dans le cas du micro-travail, c'est qu'on voit d'une certaine manière revenir cette forme de tâcheronat avec du coup des tâcherons 2.0 hein, que serait Amazon Mechanical Turk ou Full Factory, qui prennent des projets, les distribuent à des travailleurs à domicile, payer à la pièce des petites sommes.
Et pour conclure, justement, vous concluez cet article en disant que la contestation à l'époque a été très vive. Aujourd'hui, elle n'est pas ou peu vive à l'encontre de ces fameuses plateformes. Et finalement, elles nourrissent un peu dans cette espèce d'idéal où finalement, l'ouvrier aurait été un petit peu lui-même aliéné par le salariat et que là, on lui redonnerait une forme d'autonomie grâce à ces plateformes-là. Aujourd'hui, on a du mal à considérer ces plateformes comme des tâcherons ou même comme de simples co-employeurs. Comment est-ce que vous lisez ce qui peut se passer dans les années qui viennent?
Alors, c'est difficile de lire ce qui peut se passer dans les années à venir, mais ce qui est vrai, c'est comme vous le dites, pour l'instant, il y a peu de contestations. Les travailleurs eux-mêmes, bon, pour plein de raisons, ont du mal à s'organiser. Certains ne le souhaitent pas, ils trouvent leur compte. D'autres, voilà, n'ont pas les moyens de s'organiser. Alors, c'est pour ça aussi que nous, on a pris à cœur de mettre en visibilité ce problème-là pour contribuer au débat public et à faire connaître ce cas de figure. Alors, effectivement, la responsabilisation des plateformes est une première voie, c'est-à-dire considérer que ces travailleurs sont des salariés des plateformes. Une autre voie, c'est la responsabilisation des donneurs d'ordre, des clients finaux, qui est une voie de plus moyen terme.
Plus moyen terme et plus privilégié. Merci beaucoup à vous, Pauline Barraud-Lagerie. Je rappelle donc le titre de cet ouvrage collectif, Les Nouveaux Travailleurs des Applis, qui va donc explorer à la fois ces plateformes de micro-travail, mais aussi des plateformes un peu différentes comme Etsy et les autres Uber et autres que nous connaissons mieux. Un livre qu'on vous conseille, qui fait un bon point sur la question dans la recherche en France aujourd'hui.
Elle est publiée au PUF.
Mais oui, c'est l'américanisation de tout. Presse universitaire de France dans la collection La Vie des Idées.
18h55, Soft Power dans un instant, suite de cette émission avec vous, Jean-Jacques Ayagon, grand témoin ce soir et ancien ministre de la Culture. Vous pouvez vous abonner au podcast de Soft Power, disponible gratuitement sur iTunes, sur la page de Soft Power, sur le site de France Culture, ainsi que sur l'application podcast de votre smartphone. Il est 18h55 en direct sur France Culture. Rebonsoir Jean-Jacques Ayagon.
Bonsoir.
Alors on va parler maintenant, d'une sorte de bilan, le bilan d'Emmanuel Macron et de Franck Riester, même si Franck Riester est arrivé seulement depuis quelques mois. Et on évoquera aussi au cours de cette émission un certain nombre de propositions, un certain nombre de débats, que ce soit autour du pass culture, de la loi audiovisuelle, le budget de la culture qui a été révélé ce vendredi, ou encore autour de la holding France Média pour chapeauter Radio France et France Télévisions qui a été annoncée également cette semaine par Franck Riester. Mais juste avant d'en venir à ces propositions et à ces idées, j'aimerais qu'on évoque un petit peu la Bourse du Commerce dont vous vous occupez. Premier bilan de votre travail auprès de François Pinault qui va déboucher dans quelques mois sur cette Bourse du Commerce. Quel est le projet, quelle est sa nature et quand c'est que ça va ouvrir?
Vous posez beaucoup de questions en une. Bon, tout d'abord, le projet, c'est de créer à Paris, au cœur de Paris, un musée pour y présenter les œuvres de la collection Pinault, œuvres, collection constituée d'œuvres contemporaines. Il ne s'agira pas d'y présenter des œuvres historiques, mais d'y présenter des artistes de notre temps. Deuxièmement, ce projet, c'est aussi un grand projet architectural et patrimonial. C'est la prise en charge d'un bâtiment qui appartient à la ville de Paris, qu'il a confié à François Pinault en bail emphytéotique pour 50 ans, de restaurer ce bâtiment, un bâtiment très très intéressant, témoin des grandes utopies du XVIIIe siècle et de ses architectures rondes, en même temps bâtiment transformé au XIXe et notamment doté d'une coupole métallique, première coupole métallique construite en France au tout début du XIXe siècle par un architecte, un jeune architecte qui allait devenir célèbre, Itorf, Jacques Ignace Itorf, qui plus tard construira la gare du Nord. À cette restauration architecturale s'ajoute l'initiative de demander à un architecte, à un grand architecte contemporain, Atada Ando, qui a déjà travaillé pour François Pinault à plusieurs reprises, à Venise, à Palazzo Grassi, à Pointe de la Douane, d'y introduire une proposition d'architecture contemporaine sans altérer la force, la puissance, la qualité de l'architecture historique. Et donc c'est ce à quoi Atada Ando s'est attelé. Donc l'année prochaine, au printemps, à la fin du printemps, au mois de mai, au mois de juin, nous serons en mesure d'ouvrir ce bâtiment, d'abord de le donner à voir au public dans sa force historique, de le donner à voir au public dans son renouveau architectural, de donner également à voir des œuvres de la collection Pinault qui seront présentées à travers des expositions ou monographiques ou thématiques.
À l'époque, lorsque François Pinault était allé à Venise, justement, au Palazzo Grazzi, c'était parce qu'il n'était pas satisfait des conditions qu'on lui proposait en France. Donc, d'une certaine manière, c'est résolu, ce débat ?
À l'époque, au moment de l'abandon du projet pour deux musées dans l'île Seguin, en effet, François Pinault s'était heurté à des difficultés, à une élongation du travaux de la réalisation de ce chantier qu'il estimait peu compatible avec ce qu'il estimait être l'urgence qui s'imposait à lui. Donc il met fin à ce projet. Aussitôt, pour ne pas totalement renoncer à faire quelque chose, on lui propose Palazzo Grassi à Venise, il s'y intéresse. En quelques semaines, l'affaire a été conclue, donc ce qui appartenait auparavant à Fiat est devenu sa propriété. D'ailleurs, la propriété conjointe de François Pinault et de la ville de Venise qui a souhaité conserver une petite part du capital de Palazzo Grassi, ce qui nous agréait tout à fait. Ensuite, il y a eu la conquête de la pointe de la douane, puisque d'un site à Venise, nous sommes passés à deux sites, et maintenant, en effet, il y a cette
possibilité. On revient à Paris,
je dois le dire, dans le cadre d'une coopération extrêmement fructueuse avec la ville de Paris, qui a très très bien compris la force de l'enjeu. Vous savez à quel point la maire de Paris est attachée à revitaliser la zone des Halles, dans laquelle elle a elle-même engagé de grands travaux. Donc il lui tenait à cœur que ce bâtiment, qui était à l'extrémité du jardin des Halles, connaisse également un renouveau.
Mais je me rappelle d'ailleurs très bien, il y a deux ans, du moment où Anne Hidalgo a annoncé que ce projet allait bien en avoir lieu. Il a été annoncé en fait presque avec la force, la joie, la vigueur que c'est d'un projet public. C'est un projet qui fait suite aussi à une autre grande fondation qui a ouvert il y a quelques années maintenant, la fondation Louis Vuitton, qui elle est portée et financée par la famille Arnault. Et cette fameuse fondation Louis Vuitton, elle a bénéficié notamment de cette fameuse loi Aragon qui porte votre nom sur le mécénat culturel. La famille Pinault a décidé, elle, de ne pas avoir recours à cette loi. Vous êtes leur conseiller et vous en êtes l'instigateur. Au moment où justement Monsieur Pinault nous présentait cette bourse du commerce en mars 2017, je l'avais interrogé sur les raisons qui le poussaient justement à ne pas avoir voulu utiliser cette fameuse loi Aragon.
Considérer avec ma famille qu'on avait les moyens, en tout cas pour le moment, j'espère que ça durera des décennies, de financer par nous-mêmes l'ensemble de ces projets sans demander à l'État de venir nous aider. Voilà, c'est tout. C'est aussi simple que ça. Si dans la rue, des gens dans la panade viennent me dire, Monsieur Pinault, l'État vous file du fric pour vos petites lubies, vos petites marottes d'art contemporain, alors que nous, on crève la dalle, qu'est-ce que je réponds à ça? Alors, j'ai pas voulu prendre ce risque. Si ce qui est fait plaît ou ne plaît pas, mais c'est avec notre argent, mon argent, l'argent de ma famille, et pas celui des contribuables et des Français. Puis les libertés d'agir, faire ce qu'on veut, bien sûr. Pas une façon de se démarquer, c'est le prix de la liberté, parce que je considère que l'État a peut-être des priorités. L'art est important, mais malheureusement, il y a des priorités plus importantes encore, ceux qui crèvent la dalle. Il faut peut-être mieux aider ceux-là avec cet argent-là que d'aider des Français. Mais je ne veux pas faire le bon apôtre qui est plus malin que tout le monde, c'est ça, c'est tout. C'est pouvoir regarder les gens dans les yeux, ne pas me faire un jour reprocher de prendre de l'argent de l'État pour mes petites passions.
Alors, comment est-ce que vous lisez cette décision? On sait que cette fondation aussi ouvrira en plein quinquennat de Emmanuel Macron, qui n'a pas de grand projet muséal. Et on l'a dit, les forces publiques sont très présentes sur ce projet, alors que effectivement, il a fait ce choix de ne pas défiscaliser une partie d'investissement. Comment vous lisez ça?
Écoutez, d'abord, c'est un choix qu'il a fait. Mais ce n'est pas pour autant, naturellement, que je ne suis pas attaché à la loi sur le mécénat
que vous avez voté,
que j'ai proposé de voter au Parlement en 2003 et que certains, de ce fait, appellent la loi Aragon. D'autre part, j'observe que si François Pinault a fait un choix, Bernard Arnault en a fait un autre, tout à fait régulier, qui s'inscrit d'ailleurs dans le cadre de l'application de cette loi et donc il n'y a rien à redire de ce côté-là. Bon, François Pinault a fait un choix dans lequel il se reconnaissait mieux. C'est dans le cadre de ce choix-là que nous avons travaillé avec les pouvoirs publics, avec l'État pour ce qui est du monument historique, puisque l'édifice est protégé au titre des monuments historiques. Donc l'État a surveillé les travaux dans le cadre de sa mission de conservation des monuments classés et inscrits. Et puis d'autre part, nous avons travaillé de façon extrêmement étroite et joyeuse, vous avez employé le bon mot, avec la ville de Paris qui est très très heureuse de voir l'offre.
Elle est joyeuse, elle est heureuse.
Non, mais l'offre culturelle du centre parisien.
Qui parle beaucoup d'un cadeau. Voilà, les termes cadeau sont revenus beaucoup, y compris au moment de l'ouverture de la fondation Louis Vuitton, et on s'est rendu compte ensuite que c'est pas vraiment un cadeau, parce que d'une certaine manière, on le payait en évidemment avec cette ristourne fiscale qui fait partie de la loi que vous avez votée.
Oui, mais je reviendrai peut-être sur le point de la loi. On a beaucoup parlé de niche fiscale à propos de la loi, c'est totalement injuste parce que
que la loi n'institue pas des niches, une niche fiscale à travers le mécénat. Des niches fiscales, j'en connais beaucoup, notamment tous les dispositifs d'acquisition d'immeubles à restaurer, à louer ensuite, parce que la
même
personne...
les journalistes en ont. Alors, vous savez.
Oui, enfin, même les journalistes en ont.
Mais pour revenir sur cette loi très précisément, donc l'évolution de la loi sur le mécénat, elle est débattue. On propose d'ailleurs de la changer pour partie. Qu'est-ce que vous pensez de ce débat?
Oui, en effet, dans le cadre du projet de loi de finances 2020, le ministre du budget a proposé en effet des modifications de certaines dispositions de la loi. Moi, je vraiment supplie le gouvernement et le Parlement d'être extrêmement attentif à l'utilité de cette loi, qu'il ne faut pas l'oublier, et n'est pas une loi sur le mécénat culturel, c'est une loi sur le mécénat en général, ouais. À quelque cause d'intérêt général qu'elle s'appelle.
Éducative, sport,
sportive, philanthropique, coopération internationale, recherche médicale, bref, tout ce qui est utile à la collectivité.
Et, donc si, vous êtes hostile à...
Si j'en juge aujourd'hui, par l'inquiétude des grandes fondations philanthropiques ou celles qui s'appliquent à la recherche médicale, qui craignent de voir s'effondrer une partie de leurs ressources et donc de leur capacité d'agir, je me dis qu'il peut y avoir un problème. Donc je m'en suis d'ailleurs ouvert au gouvernement. Un jeune ministre s'intéresse plus particulièrement à cette question de la modulation éventuelle, mais aussi de la pérennisation de la loi sur le mécénat, c'est Gabriel Attal. Un jeune ministre tout à fait remarquable, et lui-même a récemment déclaré dans une interview confiée aux Échos, que la loi sur le mécénat n'instituait pas de niche fiscale. Parce que la personne qui pratique le mécénat, finalement, elle aura moins d'argent dans la poche.
Oui, elle dépense. Ouais.
Elle dépense. Mmh. Parce que si vous donnez 100, certes, 60 sont pris sur l'impôt que vous avez à payer légitimement à la collectivité, mais vous y rajoutez 40 si vous êtes une entreprise ou 33 si vous êtes un...
Mais d'une autre manière, l'État ne choisit pas ce qu'en réalité ces projets-là sont choisis par les mécènes. Et ensuite, il y a ces économies fiscales. Donc d'une certaine manière, ça veut dire que l'État renonce à des recettes fiscales sur des projets qu'il n'a pas choisis. C'est aussi
oui,
le problème.
Mais je crois que c'est le signe d'une société adulte. Parce que pour
c'est aussi
part,
la société américaine, puisque c'est le modèle américain.
Mais pour ma part, ce n'est peut-être pas votre cas, j'estime que l'État n'est pas le seul garant, n'est pas le seul comptable.
Et le seul à devoir décider,
voilà,
finalement. Seul.
Et je trouve que c'est extrêmement audacieux, hein, dans un pays comme le nôtre, que l'État consente à ce que des particuliers, des entreprises, finalement, jouent un peu, dans certaines limites, naturellement, son rôle. Lorsque vous ou moi nous donnons de l'argent à l'association des amis du Centre Pompidou ou à la recherche contre le cancer, finalement nous devenons un peu ministre de la Culture et ou ministre de la Santé. Mmh. C'est une prise de responsabilité. Alors naturellement, pour ma part, je crois que l'État ne doit pas dépérir. Je crois que l'État conserve un rôle éminent, qu'il est le gardien et le garant suprême de l'intérêt général.
Mais il peut y avoir ces 30%.
Mais il doit associer d'autres acteurs. Les collectivités locales, les entreprises, les individus, ces missions. J'irai même plus loin. Un jour, si je revenais aux affaires et si je refaisais une nouvelle loi sur le mécénat, j'instituerais même, parce que la loi sur le mécénat, elle établit une petite, même une grosse inégalité entre ceux qui paient de l'impôt sur le revenu et ceux qui ne paient pas d'impôt sur le revenu. Parce que
ils ne peuvent pas défiscaliser.
Ceux-là ne peuvent pas défiscaliser, donc ils deviennent en quelque sorte, s'agissant du mécénat, des citoyens non actifs.
Donc il y aurait un impôt négatif.
Et donc j'assiduerai éventuellement pour chaque citoyen imposable une petite dotation qui lui permettrait l'affecter
donc
à une cause d'intérêt général.
La supplique, de Jean-Jacques Aigan sur le mécénat. Il supplie ce soir Emmanuel Paquette.
Et tout à l'heure, on parlait des grands présidents de la République, notamment Jacques Chirac, François Mitterrand ou même Georges Pompidou. Les trois ont créé leur musée, en tout cas ont laissé une empreinte. Et aujourd'hui, ceux qui laissent leur empreinte, c'est des milliardaires. C'est la fondation Louis Vuitton avec le musée qui vient d'ouvrir. Monsieur Pinault, maintenant, avec le musée sur lequel vous travaillez actuellement. Donc est-ce que les milliardaires ont remplacé les ministres de la Culture pour tout ce qui touche au musée.
Inauguré par l'un que par François Hollande et probablement par Emmanuel Macron pour le suivant.
C'est pas la première fois que ça se produit. Il y a un musée qui s'appelle Nissim de Camondo, il y a un musée qui s'appelle Jacques Parandré, il y a déjà eu que dans le paysage culturel des initiatives privées. Je crois que ce n'est pas
moins d'ampleur quand même.
Ce n'est pas une mauvaise chose à mes yeux, à condition que l'État ne renonce pas à être encore plus audacieux. Je crois que tout ce qui peut enrichir le paysage culturel, tout ce qui peut enrichir l'offre culturelle, c'est formidable, mais à condition que l'État ou que les collectivités locales ne baissent pas les bras. Et d'ailleurs, je note qu'en France, beaucoup de collectivités locales jouent un rôle majeur dans le développement culturel de notre pays et que c'est tant mieux.
Alors pour terminer sur autour de François Pinault et du mécénat, on a d'autres sujets ce soir. Peut-être juste une dernière question. Quel est votre titre exactement? Qu'est-ce que vous faites auprès de François Pinault? Et on dit que vous allez bientôt prendre votre retraite, donc c'est l'heure du bilan, Jean-Jacques Ayagon.
Écoutez, tout d'abord, je parle comme Chirac, maintenant je dis écoutez, j'ai bien appris. Jusqu'à présent, j'assurais les fonctions de directeur de la collection Pinault, de directeur général de la collection Pinault. Voilà, j'indique à François Pinault que je souhaiterais progressivement conquérir un peu plus de disponibilité, de liberté. Il a choisi un nouveau directeur pour la collection Pinault.
Martin Pinault.
Il s'agit de Sylvain Faure.
Sylvain Faure.
Un ancien collaborateur du président de la République. Par ailleurs, Martin Pinault, que vous citez, est directeur des musées de la collection.
Et notamment la Bourse du Commerce.
La Bourse de Commerce demain, quand elle ouvrira, et de Venise actuellement. Je continuerai à suivre le chantier de la Bourse de Commerce jusqu'à l'ouverture du bâtiment. Et ensuite, je conserverai des missions moins prenantes auprès de François Pinault, auquel me lie une vieille et vraie amitié.
France Culture, Soft Power, Frédéric Martel.
19h passé de 9 minutes, vous écoutez Soft Power, le magazine d'industrie culturelle et numérique de France Culture. Désormais tous les dimanches, nouvel horaire de 18h10 à 19h30. L'ancien ministre de la Culture Jean-Jacques Ayagon est mon invité ce soir. Alors on a parlé de la Bourse du Commerce, on est revenu longuement sur le président et aussi homme de culture Jacques Chirac. Venons-en à la politique Macron et notamment aussi Franck Riester. Peut-être pour commencer, Manuel Paquette, le budget 2020. Qui a été dévoilé ce vendredi.
Oui, alors c'est le projet de loi de finances pour l'instant. Hein. Donc effectivement, on voit que...
PLF.
Le PLF, c'est ça. Le ministre de la Culture s'est félicité d'avoir une augmentation de 73 millions d'euros par rapport au précédent budget. 43 millions qui est dû à une hausse budgétaire et 30 millions qui est lié à des programmes d'investissement d'avenir. Alors pour rebondir sur ce que vous disiez, donc j'ai une mauvaise nouvelle pour vous, puisque le Louvre est un des grands perdants avec moins 11 millions d'euros dans le fonds de dotation qui aujourd'hui participe à son financement. On a parlé aussi du financement du Pass Culture qui lui est un des gagnants puisque son budget sera augmenté de 10 millions, donc soit on avoisine les 40 millions d'euros.
Comme il en faut 500 ou 600
il
ou
en 400. Faut 400.
Voilà. Là il disait 200, plus de 200 et c'est vrai qu'on ne sait pas
mais d'où on vient. Mais c'est 400 à 200 déjà.
Ouais, déjà.
On l'a revu à la baisse mais on est vraiment très très loin du
compte. Voilà, et on ne sait toujours pas comment ça va être financé, donc effectivement c'est une grosse interrogation. L'autre grand perdant de ce budget, c'est l'audiovisuel public, avec une perte de 71 millions d'euros, qui est liée à la baisse de la redevance d'un euro. Donc ça concerne France Télévisions, Radio France, toutes les entités en fait dont on parlera plus tard, donc France Média,
INA, etc. Oui.
Exactement. Donc ceux-là aussi font partie des perdants. Et dans les gagnants, le Centre National de la Musique qui finalement est créé avec une dotation de 7,5 millions d'euros. Et puis le développement de ce que le ministre de la Culture appelle les microfolies. Donc ce sont des sortes de musées numériques qui sont installés un peu partout dans les villes.
Et l'objectif de ceux du parc de la Villette.
Exactement. L'objectif c'est d'en avoir 1000 d'ici 2022. Et donc il y a une augmentation de la dotation de 3 millions d'euros en 2020. Donc là, un effort est fait. Et puis le grand gagnant, c'est la restauration du patrimoine, puisque là le budget a énormément augmenté et on va passer à l'ordre de un peu plus, quasiment 400 millions d'euros pour le patrimoine et donc la rénovation du patrimoine français.
Sur ce budget, projet de loi de finances 2020, Jean-Jacques Ayagon.
Et tout d'abord, on a rarement vu un ministre de la Culture qui annonçait que ses crédits étaient en recul, en régression.
Vous êtes jaloux, c'est ça?
Non, pas du tout. Non, pas du tout, parce que l'exercice de la communication ministérielle, c'est de montrer qu'on a les moyens. Pour ma part, d'ailleurs, je souhaiterais que les ministres prennent l'habitude plutôt de communiquer sur l'exécution de leur budget en fin d'année pour voir ce qui a réellement été dépensé.
Moi, ce qui n'existe jamais dans les conférences de presse, vous pouvez me dire. Jamais.
Et c'est là qu'est la vérité de l'action publique. En 2003, constatant que le ministère de la Culture avait en crédit de paiement pour les travaux sur les monuments historiques, notamment, cumulé près d'un milliard de crédits non dépensés, j'avais accepté du ministère du budget une diminution, alors optique,
relative, ouais.
De la dotation du ministère de la Culture pour les monuments historiques. On m'a accusé, je vois sans corps sur ma notice Wikipédia, d'avoir quasiment sacrifié le patrimoine. Mais en réalité, en 2003, j'ai dépensé plus d'argent que mes prédécesseurs, tout simplement parce que j'ai puisé dans ce milliard et que j'ai accéléré la consommation des crédits. Donc peut-être qu'un jour, il faudrait, en fin d'année, ou quelques mois après la fin d'année, que les ministres, celui de la Culture et les autres, d'ailleurs, disent « voilà ce que nous avons fait de l'argent que la nation nous a donné, voilà comment nous l'avons dépensé, voilà notre véritable bilan ». Parce que la communication sur le projet de loi de finances, c'est toujours une communication par nature très, très, très optimiste.
Sur la loi audiovisuelle et une holding possiblement à la tête France Média pour chapeauter Radio France, France Télévisions, etc. Annonce de Franck Riester cette semaine.
Alors simplement, je voudrais d'abord dire sur Franck Riester qu'il prend son travail très à cœur. De toute évidence, il tente de faire fonctionner son ministère sur ses deux pieds, sur le pied culture et le pied communication. Il connaissait bien, en arrivant au ministère de la Culture, les dossiers communication.
Il marche sur deux jambes, vous
il
voulez
marche,
dire.
Il marche sur deux
nouvelle.
Jambes. Et c'est nécessaire dans ce ministère qui est désormais historiquement le ministère de la Culture et de la Communication, même si la communication a disparu de son intitulé. Alors vous m'interrogez sur le projet de réforme de l'audiovisuel. Là aussi, il va y avoir un débat au Parlement. J'ai lu la communication du ministre avec beaucoup d'attention. Il y a beaucoup de choses très positives. Il est évident, par exemple, que la loi aujourd'hui doit s'ajuster à la réalité du numérique. Ça a bouleversé, même modifié, les modes de diffusion d'un certain nombre de programmes, et notamment de films. Et il y a matière à éventuellement légiférer sur cette question. Simplement sur France Média. Voilà, je suis un peu perplexe.
C'est une usine à gaz.
Parce que de façon générale, j'ai observé dans ma vie qui est presque longue que ce n'était pas
qui est même totalement longue.
Oui, qui est consistante en tout cas. mais j'ai encore de très très longues. Vous savez, j'ai toujours pensé que c'était un préjugé de penser que parce que tous les hommes étaient morts jusqu'à ce jour, il faudrait forcément mourir. Ah non, je suis un optimiste fondamentalement.
Toujours, ça peut changer grâce au numérique.
Ça peut changer. Il y a des mutations génétiques qui peut-être sont en train de se produire sous vos yeux. Mais toujours est-il que j'ai observé que ce n'était pas en créant de grosses machines qu'on donnait systématiquement à l'initiative, que ce soit publique ou privée, plus d'efficacité et plus de lisibilité. Regardez, sous François Hollande, il y a eu une réforme des régions. On a compacté un certain nombre de régions dans des super régions. On a annoncé que ça allait...
Et finalement, ça coûtait plus cher.
Ça allait produire des économies, tout ça. Pouf, rien du tout. On a accroché, on a accouché d'une couche supplémentaire de millefeuilles. Ça coûte plus cher, c'est plus inefficace. Les fonctionnaires passent leur temps, regardez dans le Grand Est, à courir de Strasbourg à Metz et de Metz à Châlons en Champagne. La DRAC, elle a certains de ses services à Strasbourg, d'autres à Metz, d'autres à Châlons. On n'a pas gagné en efficacité. Tout d'abord, aussi, ce que je voudrais également dire, c'est que je n'aime pas l'expression audiovisuel public. Parce qu'on a mis dans le même sac la radio et la télévision. La télévision, aujourd'hui, elle est frappée de vraies difficultés, de vrais problèmes, parce que les modes d'accès au programme au pluriel, ont considérablement été bouleversés. La radio reste un média d'intimité, un média désiré, un média également qui honore, s'agissant de Radio France, totalement ses missions de service public. Pour ma part, j'aurais souhaité qu'on ne tente pas d'inclure dans la même entité, dans la même méga-entité, la radio et la télévision. Une exception a très judicieusement été faite par Franck Riester et le gouvernement s'agissant d'Arte et de TV5 Monde, chaîne que j'ai présidée. Cette exception, elle est judicieuse. Mais pour ma part, je pense que on peut délibérer de l'utilité de doter la télévision et l'INA éventuellement d'une structure partagée. Mais bon, pour ma part, je pense que la radio garderait à rester singulière, à rester autonome, parce que je le répète, la radio de service public, dans toutes les stations de Radio France, dans toutes les chaînes de Radio France, remplit admirablement ses missions. Elle honore notre pays, elle honore la culture.
Faut-il avoir peur, dans le registre de la télévision, de Netflix et de ce qui arrive, notamment Apple qui arrive sur avec Apple Plus, Amazon Prime, YouTube, etc. Bref, la télévision sur les plateformes américaines.
On peut avoir peur, mais enfin néanmoins les choses sont là. Donc la question est de savoir comment on maîtrise, comment on régule, éventuellement comment On applique à ces opérateurs les mêmes règles qui s'appliquent aux opérateurs historiques et traditionnels, hein, de façon à ne pas créer des distorsions énormes, s'agissant par exemple du financement de la création cinématographique et audiovisuelle. Mais sinon, on peut avoir peur. Certains ont eu peur à une époque de la locomotive, après on a eu peur
des trains électriques.
Des trains électriques, de la voiture, tout ça, ça finit par se faire. Je crois que nous sommes dans un monde d'innovation technologique.
Mais sauf qu'on n'arrive pas à réguler ces grands acteurs. Et on n'a pas beaucoup d'acteurs français. Emmanuel Macron a annoncé avoir fixé un objectif la semaine dernière qu'il y ait 25 licornes en France d'ici 2025. Licornes, vous savez, c'est ces startups valorisées à 1 milliard de dollars ou plus. Mais Netflix, même Spotify ne sont pas françaises.
Enfin, l'initiative, je crois qu'Emmanuel Macron a bien compris le problème, il a bien compris la difficulté, sa volonté, qui doit d'ailleurs devenir une volonté européenne, peut-être, de créer des opérateurs capables de rivaliser.
Oui, mais on disait ça quand Sarkozy est arrivé, quand François Hollande est arrivé, ils voulaient lancer leur Google français, etc.
En tout cas, c'est une question à laquelle il ne faut pas rester indifférent. Sinon, en effet, demain, nous serons en situation de minorité culturelle et un certain nombre de principes auxquels nous sommes attachés, notamment ces principes historiquement constitués de défense de la diversité ou de l'exception culturelle, ne tiendront plus.
Emmanuel Paquette.
Alors justement, dans le projet de loi de finances, alors je reprends vos termes, ce n'est qu'un projet pour l'instant. Franck Riester a dit que sur les taxes concernant les éditeurs de télévision, il allait les aligner sur les services de SVOD, donc ceux de Netflix, Amazon et autres, en les passant à 5,15% du chiffre d'affaires, qui irait directement au Centre National de la Cinématographie, justement pour financer la création. Donc, du coup, pour vous, est-ce que ça c'est un bon angle d'attaque de récupérer des financements de ces plateformes?
Bien sûr, bien sûr.
Et pas simple, mais on n'est pas dans de la création, là, on est simplement dans de la finance, pour le coup.
Oui, c'est pas de l'obligation de création, mais il est très très difficile d'imposer des obligations à des opérateurs qui ne sont pas saisissables, hein, qui sont hors notre portée. Hors notre portée technique, hors notre portée juridique, très 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 largement. Donc poser, en effet, normaliser la relation qu'ils peuvent avoir avec la création par le biais de la taxation et de l'alimentation de ce fait des fonds du Centre National de la Cinématographie et de l'Image Animée, c'est une bonne démarche.
Il fallait nommer Dominique Boutonnat, la tête du CNC.
Écoutez, je n'ai pas,
vous l'auriez fait ?
Je n'ai pas d'idée sur la question. Je ne connais pas Dominique Boutonnat. C'est un profil atypique par rapport, si on le confronte à celui de la longue succession des
Éric Bonin, Véronique Hella,
des responsables,
David Kessler.
CNC, mais parfois, ça fait du bien également de changer un peu de profil et de caractère. Ça peut,
ou pas.
C'est à la sortie qu'on jugera la qualité.
Vous nous avez pas dit ce que vous pensiez du Pass Culture, au passage.
Écoutez, c'est un sujet...
Vous qui... respirez.
Non, il était long, ce soupir, Jean-Jacques Guérigou.
Le Pass Culture, c'est un... Bon, Emmanuel Macron a été porteur de cette idée pendant...
Qui vient de l'Italie, d'ailleurs, où elle a échoué.
Non, en fait, elle n'a pas tant échoué que ça. Mais en plus, le périmètre du Pass Culture français est beaucoup plus large et théoriquement plus large, beaucoup plus ambitieux.
Bon, Emmanuel Macron a endossé ce projet. Il en a fait l'un des thèmes de sa campagne électorale. Bon, il se trouve que j'avais été associé à quelques réflexions de son équipe de campagne. Pour ma part, j'avais toujours fait part de ma très grande réticence à l'égard de cette proposition qui était ardemment défendue par une personnalité d'ailleurs qui a rejoint son cabinet. Il s'agit de Claudia Ferrazzi,
qui étant
italienne d'origine, connaissait bien l'expérience italienne que vous évoquez. Tout simplement, je marquais de la résistance, peut-être parce que je suis conservateur, mais simplement, je vois bien qu'aujourd'hui, tous les pour employer un néologisme, les opérateurs de la culture, les musées, les théâtres, etc., tentent d'engager des actions de médiation culturelle et souvent sont un peu empêchés de le faire totalement efficacement par manque de moyens.
Donc pourquoi ne pas le faire à travers le Pass Culture
à ce moment-là ? C'est le cas également dans leur relation avec le ministère de l'Éducation nationale. Non, parce que la question, ce n'est pas seulement de permettre d'acheter un bien culturel ou une proposition culturelle, c'est également de recevoir, de bénéficier d'un acte de médiation qui vous permet de mieux comprendre
comprendre, de mieux vous introduire dans la réalité d'une proposition culturelle. Les médiateurs que sont les conservateurs de musées, les gens affectés à la médiation culturelle dans les musées, dans les théâtres, ils font également un travail, ils font un travail de familiarisation de ceux avec lesquels ils travaillent à la culture ou à telle proposition culturelle. En tout cas, le président de la République a lancé ce projet. Il y est de toute évidence attaché. La précédente ministre de la Culture, Françoise Nyssen, en avait fait l'un des éléments assez constants de son...
En même temps, Franck Riester sait qu'il n'a pas le budget récurrent chaque année pour le faire. Donc on tente des choses.
Il a rappelé quand même, il a fait une pirouette.
De ce qu'on a compris, l'idée c'était que les grands de la culture, par exemple le Fnac, Spotify et d'autres, allaient abonder en donnant par exemple l'accès à tant de services gratuits qui auraient fait un budget de 200 millions ou de 400 millions.
Mais ils ne le font pas.
Beaucoup ne le font pas.
Ça me semblait, la question du financement avait déjà été posée pour la campagne. Et en effet, certains me disaient à ce moment-là, quand se posait la question de savoir qui paierait, les GAFA paieront. Alors, je disais toujours, les GAFA, il faut plutôt les soumettre à une fiscalité normale plutôt que d'attendre d'eux des actes de générosité. Mais bon, l'affaire est lancée. Considérons que c'est une expérimentation et au bout d'un certain nombre d'années, de 2 ans, 3 ans, peut-être à la fin du premier mandat d'Emmanuel Macron,
faisons le bilan.
Est-ce que ça a contribué à élargir le public qui désire accéder à la vie culturelle? Est-ce que ça n'a pas simplement été une aubaine pour ceux qui déjà vont au théâtre, au musée, achètent des livres, achètent de la musique, vont au cinéma? Troisièmement, autre question, est-ce que cette consommation culturelle supplémentaire ne va pas se porter sur des propositions ou des produits triviaux? Est-ce qu'elle se portera?
Il y a en expérimentation le Pass Culture, et là, visiblement, contre toute attente, et en rejoignant un peu l'expérience italienne, c'est essentiellement les libraires. Ça ne marche pas du tout pour le cinéma et ça n'a pas marché pour les théâtres, dans les quelques départements où le Pass est...
Beaucoup de livres scolaires en Italie,
Le problème. C'était le problème, mais là, en l'occurrence, c'est des livres scolaires et pas scolaires.
Mais s'ils sont des livres, c'est pas mal. C'est bien.
C'est déjà pas mal.
Et donc, bon, là, faire élancer.
Sauf qu'à 18 ans, est-ce que c'est... Enfin, c'est précisément à 18 ans, hein, donc c'est aussi l'autre problème.
C'était un autre sujet de débat. Est-ce que le bon âge était 18 ans? Est-ce que c'était 16 ans? Est-ce que ce n'était pas
12 ou 25?
Je crois que les choses sont parties. Observons.
Et faisons le bilan après.
Et on fera le bilan après.
Au niveau européen, Ursula von der Leyen, la nouvelle présidente de la Commission, a précisé les attributions tout récemment de ses ministres. La Bulgare Maria Gabriel est en charge de l'innovation, la jeunesse, la recherche, le sport, l'éducation et la culture. Quant au Grec Margaritis Chisna, il sera en charge de la protection du mode de vie européen. Qu'est-ce que vous inspire ces deux intitulés? Avec la culture noyée, un peu, dans tout ça.
C'était pas glorieux, c'est triste, c'est lamentable même.
De pas glorieux, vous finissez lamentable.
Non, mais enfin, c'est extrêmement triste. On a cessé de raconter que je ne sais plus qui, je crois que c'était Robert Schuman, aurait déclaré que si c'était à refaire, il faudrait
recommencer. Mais c'est apocryphe, dit-on. Ouais, voilà, et puis c'était plus. C'était pas Robert Schuman.
Mais c'était pas Robert Schuman, en effet, en le disant. Il est vrai qu'aujourd'hui, on voit bien que les citoyens européens sont souvent mal à l'aise à l'égard de l'idée même d'Europe. On le voit dans la façon dont ils votent ou ne votent pas, d'ailleurs, aux élections européennes. L'Europe n'est pas encore... Je suis fondamentalement européen. Je vous ai parlé de Robert Schuman, parce que Robert Schuman était messin et que je suis né à Metz.
C'était Jean Monnet. Et on retrouve ça dans les mémoires, notamment.
Mais, donc, l'Europe est encore à faire. L'Europe, elle est à faire dans l'esprit, dans la culture, dans le cœur des citoyens européens. Et donc, je crois que si l'Europe, qui a toujours considéré que la culture, c'était une question qui relevait subsidiairement de la responsabilité des États membres, si l'Europe, l'Union européenne, pouvait se doter d'une véritable ambition culturelle, ce serait une chose formidable. Et donc, il vaudrait mieux que l'intitulé de ce commissariat soit revu, parce qu'en plus, il est très, très ambitieux.
On va le lui dire. Pour terminer cette émission, peut-être une question un petit peu plus personnelle, Jean-Jacques Ayagon. Vous êtes un homme de culture. C'est quoi pour vous la culture en ce moment, au mois de septembre, en cette rentrée? Quels livres lisez-vous? Les expositions que vous avez vues? Le film que vous avez aimé? Les spectacles?
Des expositions, j'en ai vu d'excellentes ces derniers temps. J'en citerai deux que j'ai vues en région, comme on dit maintenant. Cinématis, qui a été conçu par Dominique Paigny et Claudine Gramont à Nice. La formidable exposition à
Nice. Où vous voulez faire de Nice
Je veux faire de
un
Nice.
Un lieu de biennale, vous travaillez avec Christian Estrosi, non?
C'est ça? Oui, en effet.
Et vous voulez faire de Nice là.
Je porte la candidature de Nice à une inscription sur la liste patrimoine mondial de Nice, capitale du tourisme de Riviera, donc au musée Matisse. Cette année, nous avons mis en place une programmation sur le thème du cinéma, puisqu'on fête le centenaire des studios de la Victorine. Chaque musée de Nice a développé un projet. Le musée Matisse développe, propose...
Encore un mot sur un livre, peut-être, ou un film ?
Oh bah écoutez, j'ai un film, Jeanne, m'a vraiment bouleversé. Hein, c'est un film...
Bruno Dumont.
Comment ?
Bruno Dumont.
Ah oui, de Bruno...
Dumont, et le livre ?
Et le livre, écoutez, je viens de finir la lecture de la biographie de Louise Bourgeois par Marie-Laure Bernadac, livre vraiment, vraiment formidable. Et bon, j'en ai quelques autres sur mon chevet, dont un essai historique remarquable sur le corps
sur
de la reine.
Votre table de nuit, voilà, table, merci infiniment. On en reste là pour ce soir. Merci Jean-Luc Ayagon, ancien ministre de la Culture, d'avoir été avec nous ce soir, Conseil pour les Arts de François Pinault. Vous pouvez retrouver les références des articles et livres dont on a parlé durant cette émission sur le site de cette émission Soft Power sur France Culture, le site franceculture.com. La semaine prochaine, dans Soft Power, nous consacrerons notre émission à la politique culturelle américaine. On reviendra sur l'histoire de la philanthropie 3 ans après la victoire de Donald Trump. Dans un instant, Carbone 14, j'ai encore le temps très rapide de vous signaler que Thierry Mariani du Rassemblement National sera l'invité des matins de France Culture demain donc. En attendant, merci à tous. Merci Manuel Paquette, Zoé Sfez.
Merci.
Merci à vous Jean-Jacques Ayagon. Bonne soirée à l'écoute de notre chaîne et bonne fin de week-end.